Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing pour parler d'IndyCar, parce que oui, il y a de l'actualité IndyCar cette semaine, même s'il n'y a pas de course, c'est assez incroyable. Lilian est là, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Et pour parler de NASCAR, parce que je pense qu'on va mettre 2 euros dans le jukebox et il va nous faire 2 heures, on pourra aller manger tranquille avec Lilian, c'est Aloïs, salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
Alors, Lilian, on commence tout de suite avec l'IndyCar. Il n'y avait pas de course ce week-end, je l'ai dit en préambule, mais il y a quand même deux petites actualités bien sympathiques en cette semaine de la fin du mois de juillet qui concernent un pilote, Jimmy Johnson, qui a enfin pu rouler en IndyCar, et
Enfin.
l'autre qui compte. Enfin, et l'autre qui concerne un chef d'équipe, mais alors lui, on ne l'avait pas forcément vu venir. C'est Cole Pirn. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par Jimmy Johnson, qui devait rouler en IndyCar à Barber avec l'équipe McLaren. Mais ça, c'était au mois d'avril, je crois.
C'est ça.
Et il y a le coronavirus qui est passé par là. Ça a été reporté au mois de juillet avec la Ganassi. Mais Jimmy Johnson, positif au coronavirus, n'a pas pu rouler. Et ça s'est finalement fait à la fin du mois de juillet. Toujours à Indianapolis, toujours avec la Ganassi et toujours avec les conseils d'un certain Scott Dixon sur le circuit routier d'Indianapolis. Il était au volant de la monoplace de Félix Rosenquist, Lilian.
Bah écoute, j'ai envie de te dire, pour un premier test, avoir Scott Dixon qui te donne des conseils, je pense que n'y a pas mieux. En tout cas, quand on voit le début de saison de Scott Dixon, s'il y a bien un pilote comment dire, qui a beaucoup d'expérience dans la discipline, voilà, c'est bien de lui qu'il faut prendre des conseils.
Mais du coup, on a eu un retour sur cet essai à Indianapolis.
Ben oui, on a eu un retour, oui.
Non, mais sur ses performances dans la
Non,
monoplace.
les performances chronométriques, non. On sait qu'il a fait deux têtes à queue, un premier au premier virage parce qu'on y avait monté trop de freins à l'arrière, et un second dans le virage 4, il a juste perdu la monoplace. Voilà, pour les petites bévues, on va dire, mais qui peuvent sembler totalement logiques quand on n'a jamais piloté de monoplace d'IndyCar autrement que sur eRacing.
Dixon a dit qu'il a été très méthodique dans son apprentissage,
Oui, c'est
sans en faire
ça.
trop.
Ce qui n'est pas surprenant.
Oui, c'est clair.
Oui, ce qui n'est pas surprenant, c'est Johnson, quoi. Ça fait quand même partie des pilotes un peu comme Kenseth, un peu comme d'autres avant lui, qui sont froids, cliniques et méthodiques dans leur approche. C'est tout sauf une surprise.
Mais je sais pas ce que vous en pensez, on a l'impression que Johnson, il a déjà quitté la NASCAR, quoi.
Tu penses qu'il prépare sa seconde carrière en monoplace américaine?
Ben, en même temps, quand tu vois ses performances en NASCAR depuis la reprise, c'était la discussion qu'on a eue avec Lilian la semaine dernière, les playoffs, pas possible, quoi. Enfin, ou alors.
À moins qu'il nous fasse une fin de saison régulière d'anthologie, ce qui me paraît à l'heure actuelle complètement improbable. Oui, pour une dernière saison, là clairement il n'y va pas, mais il paraît ouais, déjà presque avoir oublié sa discipline fétiche pour se concentrer vers son potentiel futur et qui sait peut-être être engagé à temps complet d'ici peut-être la saison 2022 dans un baquet en IndyCar.
Parce que après, c'est assez différent avoir un futur où tu pars à la retraite en NASCAR pour ne rien faire et partir à la retraite en NASCAR pour reprendre en IndyCar. Je pense que c'est deux approches différentes. Et à bientôt 50 ans, je ne sais pas si Jimmy Johnson est prêt à faire le jump pour plusieurs saisons en full time en IndyCar. Par exemple, Tony Kanaan. s'est exprimé dans la semaine après son doubleheader à Iowa, puisque lui est en semi-retraite. En gros, il choisit les courses auxquelles il veut participer. Mais c'est pas simple pour des hommes de cet âge-là à continuer le sport de haut niveau.
Bah, Canaan, c'est sa dernière saison.
Ouais. Il a que 44 ans, Jimmy Johnson. Hein.
Ah, j'aurais plus dit 47-48.
Non, non, il aura 45 le 17 septembre.
C'est les cheveux qui sont bien gris maintenant chez Johnson. C'est ça, ça vieillit.
Ben ouais.
Donc, bon, après, on n'est pas à l'abri d'une victoire de Johnson en fin de saison régulière pour qu'il se qualifie pour les playoffs en NASCAR. Mais voilà, faut. Ouais, j'y crois pas, personnellement.
Ouais, mais même Geoffroy, même s'il va en gagner une, c'est pour faire quoi? C'est pour sortir dans les quatre premiers?
Ah ben, c'est pour faire de la figuration, à mon sens. Hein.
Je veux dire.
Du coup, j'ai une question pour vous. Quel est le plus probable? Une victoire de Jimmy Johnson avant la fin de saison régulière ou une entrée en IndyCar pour une saison à temps complet en 2021 ou 2022?
Oh, IndyCar en 2022.
2021, a priori, l'objectif, ce serait de faire du partiel avec les routiers et les urbains, et 2022, d'ajouter les ovales.
Clairement IndyCar.
Tout du moins, c'est quand même une direction intéressante, parce que je ne me souviens pas de mémoire qu'un pilote de premier plan en NASCAR décide de faire le saut en IndyCar. L'inverse est arrivé, plus d'une fois, mais dans ce sens-ci, c'est très rare et j'en connais pas.
Non, moi non plus. Juan Pablo Montoya.
Non, mais il avait commencé en IndyCar, enfin en kart.
Oui, c'est vrai.
À ses premières heures. Mais même les Andretti, ils ont commencé en monoplace avant de venir en NASCAR.
Kurt Busch, c'était un one shot.
Et puis l'Andretti.
Tony Stewart également.
Bah, Tony Stewart a commencé en IndyCar aussi, oui.
Oui.
Donc, non, ouais, ce serait. Prendre le contre-pied de certains pilotes. Donc, on verra bien ce que va faire Jimmy Johnson.
En espérant que ce soit plus couronné de succès que l'essai de Dario Franchitti en NASCAR.
C'est vrai que celui-ci, il n'avait pas laissé une trace.
Ouais.
On pourrait rajouter Sam Hornish Junior aussi dans le paquet.
C'est pas faux. Et pourtant, les mecs, quand tu vois le palmarès en IndyCar, tu te dis que c'est tout sauf des manchots, quoi.
Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et ils étaient chez Penske et il était chez qui, Franchitti? Chez Ganassi.
Il a été chez Ganassi, ouais. C'est pour ça qu'après, il est resté chez Ganassi en IndyCar. Quand il est retourné en IndyCar.
Ah ouais. Oui, donc, enfin, tout sauf des aberrations. Mais bon, c'est ainsi. Voilà pour la partie Jimmy Johnson. Lilian Colpern, l'avait laissé en train de gérer un chalet à la montagne au Canada.
Un peu stéréotypé tout ça, le chalet au Canada.
Mais je te promets, c'est ce qu'il avait il partait faire, quoi.
En train de faire du sirop d'érable, c'est ça?
Ouais, sûrement. C'était comme ça qu'on l'avait laissé à l'issue de la saison 2019, où il avait quand même emmené Martin Truex Jr. en Final Four pour la quatrième fois en cinq ans, pour un titre, faut-il le rappeler. Il avait tout arrêté, et là, voilà qui revient, mais en IndyCar, à l'Indy 500, avec Connor Daly, pour, rappelez-moi l'écurie, c'est pas la Carlin.
Ed Carpenter.
Carpenter Racing, voilà, c'est ça. Belle surprise aussi.
Ah bah, celle-là, ouais, c'est... Comme tu l'as dit, c'est vrai, on avait quitté un Colpern qui voulait prendre un petit peu de recul par rapport au sport auto, qui voulait profiter de sa femme et de ses enfants. Et puis, au final, on dirait que les sports auto lui ont vite manqué, parce que il a déjà décidé de remettre un pied dans la compétition. Et puis, tu l'as dit, ce sera plus en stock car, ce sera en monoplace américaine. Et puis, pour l'épreuve, ou en tout cas l'une des épreuves les plus connues du monde et la plus mythique aux États-Unis.
C'est bien gentil qu'il veuille revenir dans les sports auto américains, mais est-ce qu'il a au moins de l'expérience en monoplace?
Bonne question.
Parce que, et en plus, je dis monoplace, mais a-t-il de l'expérience à Indianapolis? Parce que c'est un environnement totalement différent que le reste du calendrier d'IndyCar, rien que cela.
Bah, le Brickyard 400, c'est tout, en tant que crew chief.
Je pense pas que tu abordes le Brickyard 400 avec une voiture de NASCAR de la même façon
que
l'Indy 500 avec une monoplace d'IndyCar.
Non, mais c'est clair, mais après, ouais, en expérience, c'est sûr que les réglages sont pas les mêmes, mais...
Parce que si tu n'as aucune expérience de la monoplace américaine ou alors très succincte et que tu reviens aux affaires à Indianapolis pour les 500 miles avec Connor Daly, qui est un bon pilote d'ovale, dans une monoplace de la Ed Carpenter, qui est, je peux être à peu près certain, qui sera bien réglé et qui sera rapide à Indianapolis comme chaque année. Il y a des trucs qui raccrochent pas bien ensemble, je trouve.
Bah écoute, on verra bien. On sait qu'il a une carrière de pilote derrière lui entre 2000 et 2003 du côté de ce qui est aujourd'hui les NASCAR Pinty Series, donc la NASCAR au Canada. Je cherche son meilleur résultat d'ailleurs. Son meilleur résultat, c'est une sixième place à deux reprises.
Quand je dis expérience, c'était tout du moins en tant que crew chief en monoplace.
Non, pour moi, non. Après, il a directement basculé en NASCAR. Donc, non, il a aucune expérience en monoplace américaine, de près ou de loin, quoi.
Du coup, nouvelle question. À quoi va-t-il servir?
Oh, il a quand même son expérience des ovales et de la stratégie.
Oui, oui. Il a quand même. Je suis pas sûr que ce soit si pénalisant que ça d'être un chef d'équipe NASCAR et de passer en IndyCar. Je pense que c'est moins compliqué quand t'es chef d'équipe que quand t'es pilote.
Je dis pas le contraire. On est d'accord. Après, quand même, on sait très bien qu'il va pas toucher à la voiture. C'est pas lui qui va la régler. C'est pas lui qui va la préparer. Donc déjà, tu maîtrises pas forcément la moitié de l'environnement si on compte que la voiture est une moitié et le pilote est la seconde. Et puis le pilote Connor Daly, je ne sais pas s'il le connaît de près ou de loin non plus. Certes, la stratégie, oui, c'est un argument valable. Je ne pense pas que tu abordes une course comme l'Indy 500, comme n'importe quelle autre course, bien qu'il ait concouru au Brickyard 400 avec Martin Truex Jr. il fut un temps.
Alors écoute, l'Indy 500, c'est quoi? C'est le 23 août. On se donne rendez-vous la semaine d'après pour en débriefer.
Allez, vendu.
Qui est là qui va nous chercher un top 5?
Oui.
À la consommation.
C'est ça. et puis, dernier petit sujet quand même en IndyCar. On en avait parlé brièvement, Lilian, la semaine dernière, souviens-toi.
Yes.
On avait évoqué la possibilité que Portland et Laguna Seca ne fassent pas partie du calendrier.
Bah, c'est fait.
Cette possibilité s'est confirmée. Du coup, on récupère un ovale supplémentaire avec une seconde course à Gateway. Donc, on va avoir des double headers dans tous les sens. On a mis d'Ohio aussi en double header, ça c'est un peu moins drôle. Et on va avoir une quatrième course à Indianapolis. Je propose c'est qu'on fasse un petit championnat annexe spécial Indianapolis. Celui qui marque le plus de points à Indianapolis remporte un prix quand même. Parce que 4 des 14 courses à Indianapolis sur une saison de 4 mois, un peu beaucoup. Alors, je veux bien, c'est la solution de facilité, on est sûr que la piste, elle est dispo, elle coûte pas cher la location, tout ça, tout ça.
Ils ont un discount pour la location.
C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que ça fait une transition, je trouve, toute trouvée, entre la gestion du calendrier NASCAR et IndyCar face au Covid-19. Alors ça, je laisserai la parole en temps voulu à Loïs.
Vas-y.
je trouve que la transition, tu vois, est toute trouvée.
Eh ben ouais. Donc oui, mais enfin c'est quand même assez fou. Tant pis, on va faire une transition comme ça sans jingle. On est des fous.
On est des fous. Aïe aïe aïe, le jingle d'Ascar qui passe à la trappe.
Mais non, t'inquiète pas. Bon, on le mettra à la fin, on se débrouillera. Mais c'est quand même assez fou, je trouve, que sur un championnat qui s'appelle l'IndyCar, qui est quand même de retour sur le devant de la scène depuis quelques années. Vous mettez le nombre que vous voulez derrière quelques.
Donc, c'est pas bon signe si tu dis ça déjà. Hein.
J'aime bien, il se mouille pas, ouais.
Non, mais voilà, pour certains, ça va être 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans. Il y a quand même un progrès, on va dire, depuis qu'on a viré la famille George. Mais là, du coup, Roger Penske, on le redit, il y est pour rien, ce brave monsieur. Sa première année en IndyCar qui devait être une réussite. Je suis désolé, mais ça tourne 9 fiascos, quoi.
Ah bah pour lui, c'est une réussite. Hein. Il arrive à vendre l'IMS assez facilement à l'IndyCar. Hein. Il n'a pas de souci. Hein.
Il prend 3 mois dans les dents. La première course, elle est 1 mois avant la suite. Et tu te cognes 4 fois Indianapolis, quoi. Alors, je veux bien. Il y a une fois, c'est l'Indy 500. Et 3 fois, le routier. C'est quand même pas le circuit le plus exceptionnel du monde. On se passe de Barber, on se passe de. Je sais pas, on aurait peut-être pu tenter un Road Atlanta. Enfin, je veux dire, quitte à oser des choses.
On aurait pu même retourner à Road America, tu vois.
On aurait pu retourner à Road America.
Non, mais en fait, le truc, c'est qu'Indianapolis, tu viens de le dire, tu as 3 fois le circuit routier. Pourquoi tu fais pas une seconde course sur l'ovale, pas de 500 miles, par exemple, tu fais du 250 ou du 300 sur un petit format pour faire un petit peu monter la sauce et pour rappeler que Indianapolis, c'est avant tout l'ovale et c'est pour ça qu'on regarde cette série avant tout, je pense.
Ouais, et puis après, je ne sais pas si c'est possible en termes de dégagement, en termes de tout ça. Mais pourquoi pas faire une des 3 courses routières à contresens?
Comme
Ouais.
le faisait en F1 il fut un temps.
Ça avait
Non,
été évoqué pour cette année aussi, d'ailleurs.
ouais, mais enfin, je sais pas, histoire de varier un peu le plaisir, quoi, parce que.
Et puis on va pas se mentir, mais le routier de
C'est ce que j'allais dire.
Indianapolis en monoplace, c'est pas fou,
Ils ont qu'à aller à Charlotte.
hein.
Ah.
En
Pardon.
voilà, ou alors ils font un échange, comme ils vont sur le routier de Daytona.
Ouais, enfin, je sais pas, mais bon.
Bref,
Oh, il y a des
tout ça.
choses qui... ouais, y a des choses qui pourraient tenter, c'est vrai.
Ouais.
Bref, tout ça pour dire que le calendrier de l'IndyCar, il est un petit peu merdique, pour rester gentil.
Effectivement. Ah Loïs, je t'ai mis ton petit jingle NASCAR, t'es bien content.
Ah, je vais mieux, tout de suite, je vais beaucoup mieux.
Ouais, puis c'est beaucoup mieux, t'es un peu moins. Tu respires un peu mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 euros dans la fonte du jukebox à Loïs. On va te
Et puis
laisser
Geoffroy et moi, on vous dit à la semaine prochaine.
poser. C'est ça. Nous, Lilian, on va aller se faire un petit resto, tranquille.
Il fait bon, on va aller prendre l'apéro.
C'est ça. On commence par l'apéro avec modération.
Un petit Gewürz, allez hop.
C'est ça.
C'est local ça.
Alors, allez, Aloïs, bref, histoire d'être sérieux 2 minutes, histoire de faire un lancement correct. On est d'accord pour dire que si la NASCAR a un petit peu foiré quelque chose cette année, ça a quand même été sa communication Covid, coronavirus, tu l'appelles comme tu veux, au moment de l'interruption, au mois de mars. C'est quand même bien parti en cacahuète cette affaire. On pensait tous, enfin, on pensait tous. Non, on était presque tous d'accord pour dire qu'il fallait pas courir. Et la NASCAR dit, si, 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 nous on va à Atlanta, on est prêt, on est chaud patate, on court, on fait des essais, on fait des qualifs, on vire le public, mais on y va. Et puis finalement, c'était quoi? C'était le vendredi, c'était le samedi, machine arrière toute, finalement pas de course. Et on ne sait pas quand on revient.
Tu as raison, la communication au tout début était, comment dire, un petit peu brouillon, on va dire. C'était brouillon. Ceci dit, alors décharge, je pense que personne n'a pu venir voir le truc, donc toute la pandémie et le fait que la Terre entière a été en quarantaine,
La
quasiment.
terre entière a tété en quarantaine. Ah bon?
Elle a
Faut le
tété,
dire.
ouais.
Essayez de le dire rapidement, c'est pas simple. Mais pour
Français?
revenir sur le sujet, c'est que justement, avant l'émission, j'ai fait un petit peu de lecture. Et
Oula.
j'ai appris que Steve Phelps, donc le
Grand
directeur de la
oncle.
NASCAR à l'heure actuelle, comment dire, a appris la situation depuis son canapé, littéralement, puisqu'il regardait le match de NBA. Le premier qui a été annulé et qui a lancé le domino des sports américains aux États-Unis. Le soir où Rudy Gobert était positif, etc., etc., il a pris depuis son canapé. Et au même moment, les équipes avaient déjà commencé à C'était au Las Vegas, c'était ça? Non, Texas. Las Vegas.
C'était Atlanta.
Atlanta. Bah, ils avaient déjà commencé à sortir le matos sur la piste pour préparer les essais, justement, comme tu me disais.
Dans les garages, hein, pas sur la piste. Hein. Ils déchargent les camions dans les garages quand même. À Atlanta, il y a de la place.
Effectivement. Du coup, il a été obligé un petit peu d'ajuster au lance-pierre à la minute, on va dire. Et c'était pas simple pour lui. Et je pense que quand tu compares des infrastructures en NASCAR par rapport à d'autres sports comme la NBA, pour rester dans une, comment dire, dans une chronologie à peu près identique au moment en mars, c'est pas du tout la même chose. Et c'est beaucoup plus lourd en NASCAR. Et du coup, le temps de réaction était un peu plus compliqué. Et puisque les activités avaient déjà commencé à Atlanta ce week-end-là, c'était plus compliqué à dire, bon, stop, on arrête à ce moment-là.
Et si je me souviens bien, Lilian,
J'allais y venir, vas-y, vas-y.
la NASCAR était sur l'Atlanta Motor Speedway, l'IndyCar était du côté de Saint-Pete,
Ouais, et la F1 en Australie.
la F1 était en Australie et la MotoGP était du côté du Qatar, enfin la Moto 2, la Moto 3, mais pas la MotoGP. Et on a eu le sentiment quand même que tous les sports mécaniques majeurs, je crois que le WRC était au Mexique, et ben, tout le monde se regardait dans le blanc des yeux à se dire qui va avoir le courage de poser ses couilles sur la table et d'annuler le premier.
Ah bah ça n'a pas
Mais
été la
c'était ça.
NASCAR, ça c'est clair.
Mais c'était ça dans tous les sports au final, hein. C'était ça partout. C'était pareil, par exemple, moi qui suivais à cette époque-là les sports universitaires, la NCAA, c'était la même chose. C'était à qui prend la décision en premier, et dès qu'une décision est prise, il y a un jeu de domino qui s'ensuit et tout s'enchaîne très rapidement à partir de la première décision.
Ouais. Et la
Donc au
NASCAR, c'est
final.
ça en fait. C'est vrai que tous les sports ont commencé, enfin les sports auto ont commencé à annuler leurs épreuves. Et de mémoire, la NASCAR a été la dernière.
Non, l'IndyCar a été la dernière.
Ah, c'était l'IndyCar?
Je crois que la NASCAR est annulée juste avant l'IndyCar.
Ok.
Ça
Ceci
joue
dit,
pas grand-chose, mais
je trouve quand même que ce serait un petit peu dommage qu'on se focalise beaucoup sur la seule erreur de la NASCAR, parce que oui, je viens de dire la seule erreur, car je pense qu'à ce jour, allez, on va dire un 9 sur 10 du coup, du point de vue de la NASCAR, de sa réaction au Covid-19, à la reprise et à l'actualité quotidienne depuis le mois de mars, quasiment. Je pense que c'est quasiment sans faute.
mais en fait, Aloïs, je suis désolé, mais pour que tu nous fasses ton exposé en 28 actes avec 717 pages à lire, il fallait quand même présenter les bases. Donc là, si tu veux, on est à la fin de l'introduction. Il fallait quand même remettre un petit peu les choses en
Le
place.
contexte.
Ben justement, parlons de contexte. La NASCAR était justement le premier sport majeur à reprendre l'activité, du coup, le 17 mai dernier. Et ça a fait quand même les vagues de l'actualité nationale et sportive aux États-Unis au moment de la reprise, parce que c'était quand même quelque chose d'important et c'était un signe, entre guillemets, positif pour la situation face à la pandémie aux États-Unis. Et je
Oui.
pense que depuis ce 17 mai, quand on compare avec les autres sports qui viennent à peine de reprendre, hein, faut dire que la NASCAR a repris plus de 2 mois avant les autres sports majeurs qui ont repris. Par exemple, la NBA commence à l'heure où on enregistre ce soir. La NBA ne reprend que ce soir. La MLS et la NHL ont repris la semaine dernière. Ces trois ligues ont repris dans ce qu'ils appellent aux États-Unis une bubble. Donc en fait, c'est toutes les équipes qui sont confinées en un ou deux endroits. Par exemple, en NHL, il y a deux bubbles au Canada, si je dis pas de bêtises. Et en MLS, tu en as également plusieurs à travers les États-Unis. Je veux pas mouiller pour la MLS, pour le soccer, mais en tout cas, NBA, MLS et NHL reprennent à peine à l'heure actuelle dans des environnements totalement confinés en quarantaine où il n'y a pas d'accès à l'extérieur. Entre coach, joueur, staff de chaque franchise. Je pense qu'on peut comparer la situation de la NASCAR à celle de la MLB, donc la Ligue de baseball, qui, elle, est, comme diraient les Américains, borderline catastrophique. C'est très compliqué. Il y a eu une semaine de jeu pour l'instant. Et l'équipe des Marlins à Miami a déjà contracté 14, si j'ai pas de bêtises, 14 cas positifs à mes dernières recherches, ce qui est la moitié de l'équipe. Et ils ont joué deux matchs. Et d'autres équipes ont également été obligées de supprimer des matchs. Alors que la NASCAR, en plus de deux mois, il y a deux cas positifs qui ont été relevés parmi les pilotes. Donc Jimmy Johnson, qui a fait les grandes lignes aux États-Unis, mais également Brendan Gaughan, qui est lui en part-time cette saison. Et je trouve que c'était justement un excellent signe sur les protocoles qui ont été instaurés par la NASCAR, bien que ce serait mon seul point négatif sur comment la NASCAR gère ses protocoles sanitaires, justement.
Après, cela dit, en NASCAR, hormis les mécaniciens, il n'y a pas de contact. Dire, tous les autres sports que tu as cités, il y a des contacts entre tous les joueurs, donc il fallait peut-être aussi prendre son temps du côté de ces ligues-là pour mettre les choses en place, et puis peut-être aussi pour que les joueurs aient la possibilité de se réentraîner.
On est d'accord, c'est un des points positifs, et c'est grâce à cette individualité, entre guillemets, des pilotes en NASCAR, puisqu'ils sont isolés dans un environnement où personne d'autre a forcément un contact prolongé, ou tout du moins c'est des contacts brefs, et si tu fais attention, il y a moyen de garder des normes sanitaires et une distanciation sociale adaptée. Mais ce qui m'embête avec la NASCAR, c'est qu'en fait, c'est le seul sport qui ne pratique pas de tests à grande échelle, notamment à l'arrivée sur les circuits. Donc, techniquement, on ne sait pas s'il y a des cas asymptomatiques parmi les staffs et parmi le personnel qui gravite autour d'une écurie.
Bah après, c'est tous les mêmes chaque week-end, j'imagine.
Mais tout le monde est testé à l'entrée sur le circuit tous les jours.
Ah, j'ai lu tout à l'heure un truc comme quoi ils n'étaient pas testés. Testés au test Covid, hein, pas le test de température, puisqu'ils testent uniquement la température à l'entrée sur le circuit. Moi, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure.
Il me semblait qu'ils étaient testés. À vérifier, mais ok, ouais. Effectivement, s'ils prennent que la température.
Si tu veux, je te passe le, comment dire, l'article que j'ai lu tout à l'heure.
S'ils ont le même thermoflash qu'au boulot.
Mais en tout cas, ils prennent apparemment que la température, et c'est uniquement s'il y a un soupçon de cas positif qu'il y a des tests qui sont pratiqués autour de cette interrogation. Ce serait le seul point négatif que j'aurais à dire sur la réponse de la NASCAR, tout du moins du point de vue sanitaire, après au cœur d'une pandémie qui touche les États-Unis de plein fouet et qui touche même les autres ligues sportives, comme je le disais juste avant.
Effectivement. Alors, voilà pour présenter un peu le décor. Ensuite, donc Atlanta, annulé. Très vite, Homestead, Texas, Talladega, Martinsville, Richmond, Dover peut-être aussi, disparaissent du calendrier. Et la NASCAR revient au 17 mai à Darlington, avec deux courses à Darlington, puis la semaine d'après, deux courses à Charlotte. Et depuis le 17 mai, vous m'arrêtez si je me trompe, pas d'essai, pas de qualif, sauf pour les Coca 600.
Écoute, à part pour Kyle Busch, sinon ça a l'air de satisfaire tous les pilotes. Nous, de notre œil de téléspectateurs, il n'y a pas plus de différence que ça.
Alors pourquoi il n'y a pas d'essai? Du fait aussi du calendrier énorme, hein, les Lions, je suis un peu coupé, désolé.
Vas-y.
T'as eu, je crois, 16 courses en 9 semaines.
C'est ce que t'en avais dit semaine dernière, ouais.
Donc bon, il fallait n'amener qu'une seule voiture sur les circuits. Donc si tu n'apportes qu'une seule voiture, compliqué de faire des essais, parce que si tu fais des essais, t'as quand même risque de casser. Et si t'as qu'une seule voiture, pour la réparer, compliqué. Donc on ne fait pas d'essais.
En principe, les écuries ont les datas des années précédentes. Hein.
Oui.
Même si on ne vient pas forcément sur ces mêmes pistes au même moment. Enfin, je pense notamment au Texas où on est allé il y a quelques semaines où il a fait très très chaud.
Oui.
Et je veux dire, voilà, sinon, enfin, les circuits sont connus des pilotes, des chefs d'équipe, des écuries. Voilà, il y a des données des années précédentes qui sont là aussi pour aider à régler, voilà, on va dire, la voiture comme ils peuvent, au moins pour le début de course, et jusqu'au premier drapeau jaune de compétition quand il y en a. Et comme il y en a eu souvent avec la pluie.
Ouais, bah, des fois, les drapeaux jaunes de... enfin, tous les drapeaux jaunes de compétition étaient définis en avance de phase, puisque comme il n'y avait pas d'essai, il y avait forcément des drapeaux jaunes de compétition. Par contre, après, on a eu la pluie, on a eu les orages, ça a été autre chose. Ça, c'était un petit peu un running gag du mai, du mois de juin, et même du mois de juillet, je crois. Mais bon, voilà, c'est totalement autre chose. Mais sur la partie compétition, Aloïs, on s'était dit, oh là là, pas d'essai, pas de qualif, ça va être compliqué, ça peut être très très drôle. Finalement, il s'est rien passé. Enfin, je vais pas dire que tous les pilotes ont été sages, mais les courses ont été plus intéressantes, je trouve, dans cette configuration-là. Et on n'a pas forcément eu des mecs qui se mettent en vrac dès le premier virage.
D'un point de vue sportif, je suis d'accord. C'était plutôt intéressant à regarder. Surtout, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est par exemple, c'est à Martinsville. Donc, c'était à la seconde semaine de reprise. Je pense à Brad Keselowski, Denny Hamlin, Martin Truex Jr., qui se sont retrouvés à un tour, si ce n'est quasiment à un tour, avant même le premier drapeau jaune, parce que les réglages n'étaient pas corrects à cause du manque d'essai. Et je me suis amusé à regarder ce qui était implémenté, les nouveautés, entre guillemets, qui ont été implémentées avec la reprise de la NASCAR mi-mai. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est à conserver, qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qui est à jeter? Et moi, une des premières choses que j'ai trouvées intéressantes à conserver, c'était des jours de course uniques, sans essai ni qualification. D'un point de vue organisationnel, comme tu disais, Geoffroy, bah, on réduit les coûts, déjà. Certes, oui. ça fout un coup économiquement aux écuries, puisque tu seras obligé d'embaucher moins de personnel, puisque tu as besoin de moins, etc. C'est sûr que l'économie de la NASCAR pourrait en subir un contre-coup, somme toute logique, si on réduit le nombre d'activités et de compétitions. Après, si on regarde ça d'un point de vue sportif, je trouve, on en a déjà parlé ces dernières semaines, si ce n'est moi, mais ça nivelle, à mon sens, ça nivelle les différences de compétitivité entre les petites, les moyennes et les grandes écuries. C'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça que des écuries comme la Front Row Motorsport avec McDowell arrivent à faire des résultats dans le top 15. C'est pour ça que les rookies arrivent à surprendre, notamment Jonathan Nemechek, pour rester à la Front Row. À mon avis, c'est des liens de cause à effet. Et ça ne me surprend pas. Et je pense que d'un point de vue sportif, on pourrait s'en inspirer. Et ça permettrait de rendre un petit peu plus d'imprévisibilité aux courses. Le fait qu'il n'y ait ni essai ni qualif. Après, trouver un moyen de répondre au manque de qualif, du coup, ça met en avant les meilleurs pilotes, puisque même si tu les sépares en groupe de 12, 14, 16 et que tu tires au pif, tu favorises les meilleurs pilotes, ou du moins ceux qui sont le mieux classés. Il y a peut-être moyen d'améliorer. Mais en tout cas, je pense qu'on tient une bonne idée du point de vue de compétitivité. Et du point de vue de qu'est-ce qu'on fait de ces putains d'essais et de ces putains de qualifs, ça fait une dizaine d'années que la NASCAR et notamment les chaînes de télévision comme la NBC, comme la Fox, bah, c'est quand même une épine dans le pied, faut pas se leurrer. Parce qu'il faut des coûts pour produire et retransmettre ces essais et ces qualifs. Et ça fait également payer du personnel. Et en fait, tu parles dans le vide plus qu'autre chose. Et il y a très peu de monde qui regarde. Et je pense que supprimer ces essais et ces qualifs pour de bon, c'est pas une mauvaise chose.
Après, les essais, les qualifications, pour moi, sur un week-end de course, hein, je te parle dans le sport automobile en général, hein, je vise pas la NASCAR en particulier, ça fait quand même partie de l'ADN d'un week-end de course. Je dis pas que je suis pour, hein. Je dis pas que je suis ouais. Forcément pour ou que je suis contre, tu vois. Mais pour contrebalancer un petit peu tes propos, voilà, enfin, faire tourner la voiture pour la régler, voilà, ça fait partie aussi de la course. Et celui qui arrivera à régler au mieux sa voiture sera devant. Que ça soit avant la course ou même pendant la course, puisque c'est les meilleurs pilotes, les meilleurs crew chiefs, les meilleures écuries qui, avec les retours des pilotes, ajusteront au mieux la voiture tout au long de la course.
Et comme tu le dis justement, tu peux régler la voiture pendant la course, et c'est ça qui fait les spécificités de la NASCAR, puisque les courses sont plus longues. Les courses sont des tests grandeur nature dans certaines occasions. Et je pense que si une compétition sportive peut se permettre de sucrer les qualifs et les essais, ce serait bien la NASCAR, puisque tu peux améliorer ta voiture drastiquement au cours d'une épreuve. Au contraire de, par exemple, si on veut comparer à la F1, si on veut comparer à l'IndyCar, si on veut comparer à d'autres sports mécaniques, la NASCAR, je pense, est la meilleure discipline qui peut se prêter à une telle modification d'organisation.
Et tu parlais justement des coûts. Ça permettrait justement à la NASCAR de pouvoir conserver ce fameux drapeau jaune de compétition. Comme ça, page de pub. Donc comme ça, un petit peu de sous qui rentre pour les diffuseurs. Et puis ça évitera, comme on pouvait se prendre régulièrement chaque week-end ou presque il y a quelques années encore, les fameux drapeaux jaunes pour débris qui ont été quasiment supprimés avec le comment dire avec la création des segments. j'ai pas compris ce que t'as dit.
Non, je l'ai dit après, avec le départ à la retraite de Dale Earnhardt Jr.
Non, c'est pas gentil.
Rien à voir avec Junior, c'était même pas pour Raya Pilote. Mais voilà, ils ont réussi à supprimer, je trouve ça, avec les segments. Là, drapeau jaune de compétition, après 20, 30, 40 ou 50 tours selon la taille de la piste, pour faire un premier ajustement. Ouais, pourquoi pas, franchement, les pilotes s'en plaignent pas, mis à part Kyle Busch. Puis, enfin, quand on voit la liste des vainqueurs cette saison, il n'y a pas, à part Austin Dillon et Cole Custer, chaque année, on a une ou deux surprises, bah, elles sont là. Après, le reste, c'est les top pilotes qui sont chaque saison en playoff.
Et pour être honnête, si tu veux juste mettre une période d'essai, tu mets un warm-up comme en MotoGP, et au final, bah, tu le fais la matinée et tu restes sur une journée unique et tu gardes quand même une période d'essai. Tu mets quoi, une demi-heure, une heure, mais vraiment, ouais, histoire de faire tourner les roues. Ouais, tu fais une petite séance, un warm-up comme en moto et hop, ça reste, tu restes sur une journée. La journée est certes plus longue puisque tu rajoutes une session avant la course, mais je pense que ça permet de trouver un bon compromis pour que ça convienne à tout le monde. Et ce ne serait pas une évolution qui serait idiote.
Alors du coup, pas d'essai, pas de qualif depuis le mois de mai. Ça choquait au départ, ça interloquait, on va dire. Ça a trouvé sa place et la NASCAR a finalement dit bon, pour le reste de la saison, c'est comme ça.
Mais en vrai, je ne sais pas vous, mais moi, j'y fais même plus attention. Pour moi, c'est... qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, je vois pas la différence.
Oui, et puis le tirage au sort des grilles de départ est somme toute assez logique.
Tu vois, je serais juste un peu plus agressif. Je ferais pas des poules de 12 ou 14 pilotes, je crois que c'est 12, c'est ça, non? Les 12 premiers, puis les 12 d'après.
Ouais.
Je ferais comment dire ça en français? Un tirage au sort, voilà. Un tirage au sort, mais 40 voitures. Sur les 40 inscrits, si tu veux vraiment foutre le bordel et si tu veux vraiment créer des différences de niveau dès le début de la course. Tu retrouves un pilote qui peut être, par exemple, Kevin Harvick, qui est premier au classement. Hop, un jour, il peut démarrer quatrième. La semaine d'après, il peut démarrer 35e.
Et au final, arriver avec des qualifications. Hein, s'il échoue à l'inspection, s'il change une pièce qui l'oblige à partir de l'arrière, enfin voilà, ça va pouvoir arriver comme ça aussi. Hein.
Et puis on a vu ça déjà avec les grilles de départ inversées qui ont été implémentées sur les double headers, par exemple. Mais on voit tout de suite que les meilleures voitures remontent relativement rapidement aux avant-postes. C'est pas une position de départ au-delà du top 20 qui va les empêcher de finir dans le top 5 à la moitié de la course, quoi.
Par contre, on a vu aussi d'autres choses, messieurs. Par moments, c'est les procédures d'arrêt au stand. On a bien rigolé à Darlington. Finalement, c'était sympathique. Mais là, ils nous ont annoncé cette semaine pour Road America en Xfinity et pour Gateway en truck. Je n'ose même pas vous en parler.
Ah bah vas-y, parce que je suis pas au courant.
Ah, t'es pas au courant. Alors, en Xfinity, lors des fins de segment, un arrêt au stand, ce sera en fait deux passages par la voie des stands pour toutes les équipes.
Un ?
Oui.
Deux ? Comment ça, deux ?
Un pour les pneus, un pour le carburant ?
Un plus un. Attends, laisse-moi tout lire. lors des drapeaux jaunes en dehors des fins de segment, un cycle d'arrêt, c'est pareil, ce sera deux possibilités de s'arrêter pour tout le monde. Alors que si c'est un quickie yellow, comme ils appellent, ce sera une seule fois dans les stands pour tout le monde. Donc là, déjà, si vous avez compris, c'est bien.
Déjà, il faudrait me définir un quickie yellow. Enfin, je sais traduire, mais qu'est-ce qu'ils appellent un quickie yellow?
Un yellow qui n'est pas long. Donc, à Road America.
Donc, ils n'ont pas le temps de passer une pub, quoi.
Presque.
Arrêtez de dire quickie, s'il vous plaît.
Ça fait penser à une boisson, moi.
Non, moi, ça me fait penser à autre chose, parce que ça veut dire totalement autre chose aux États-Unis.
Ah ouais.
En argot d'Aloïs, à mon avis, ça doit être un truc sexuel.
Ouais.
C'est totalement ça.
Ça veut dire précoce ou je ne sais quoi ?
Non, c'est un petit coup.
Ah,
d'accord.
C'est un petit coup.
Ok. Ensuite...
en tout cas, on ne sait pas ce que ça veut dire les deux arrêts au stand par drapeau jaune. C'est-à-dire, en fait, tu as ceux comme aujourd'hui qui sont dans le tour et ceux qui ne sont pas dans le tour ?
Non, tu rentres à un tour. Et après, tu re-rentres au tour d'après.
Mais pourquoi tu re-rentres si t'as déjà passé une fois?
Attends, laisse-moi expliquer, je suis même pas au troisième point. Il y en a cinq.
Oh.
Et après, il y a l'explication des restarts. Non, mais attends, sans déconner, bonhomme. Les équipes de mécaniciens, il y aura 6 mécaniciens, 5 seulement qui pourront intervenir sur la voiture, dont celui qui fait les ravitaillements en carburant, et un qui assistera le pilote. Donc, en gros, ils seront plus que 4 pour les pneus et le jack, comme c'est... le cas aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Les arrêts au stand devront être terminés en une certaine période de temps. Entre les deux lignes jaunes, les arrêts sous drapeau vert auront un minimum de 60 secondes. Les arrêts sous drapeau jaune auront un minimum de 80 secondes. Okay. Et les équipes vont ajouter ou du carburant ou changer les quatre pneus par arrêt au stand. D'où le fait qu'il y ait deux arrêts.
Ils peuvent pas faire les deux en même temps.
Non. Et les restarts, le restart, donc ce sera les voitures dans le tour du leader qui ne se sont pas arrêtées en premier, puis les voitures qui ne se seront arrêtées qu'une seule fois, puis les voitures qui se seront arrêtées deux fois, puis les voitures au-delà du tour qui se seront arrêtées zéro fois, puis les voitures au-delà du tour qui se seront arrêtées une seule fois, puis les voitures au-delà du tour qui se seront arrêtées deux fois, puis le free pass, les waiver round et les voitures pénalisées.
Ok, c'est bon, je comprends mieux.
C'est bon, tu comprends mieux
Ouais, en fait, c'est instaurer des règles pour forcer à des stratégies qui existent déjà.
Ouais, deux tours de pénalité pour changer les pneus et ajouter du carburant sur un arrêt et avoir quitté les stands avant les 60 secondes, avant l'horloge des 60 secondes.
Ah, parce que tu peux pas quitter. Ah, pour moi, c'était tu as 60 secondes pour rentrer dans la voie des stands et pour en ressortir.
Non, minimum.
Oh là 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 là.
Donc, c'était pour Road America, si tu avais trouvé ça dur. Attends-toi à Gateway. Gateway, tous les drapeaux jaunes sont des quickie yellow. Donc, tous les drapeaux jaunes sont des petits coups. J'ose imaginer s'il y a un gros carton.
C'est exactement ce à quoi je pensais.
Ou s'il venait un petit peu à pleuvoir. Donc, chacun aura la possibilité de rentrer au stand pour ajouter du carburant et ou faire des ajustements. Pas de changement de pneus à l'exception des fins de segment. La NASCAR travaillera avec les équipes sur les crevaisons ou sur les dommages liés aux problèmes de pneumatiques. On pourra mettre du carburant n'importe quand. Il y aura trois segments. Le premier qui se terminera au tour 55, le deuxième qui terminera au tour 110 et le troisième qui terminera avec la fin de la course au tour 160. Lors des segments, les équipes pourront faire un arrêt normal avec des ajustements et elles pourront ajouter du carburant et des pneumatiques. Si les équipes choisissent de ne pas s'arrêter pendant les segments, les trucks s'arrêteront dans la ligne droite arrière derrière le truck de sécurité.
Qu'est-ce que
il me reste 3 points encore à lire.
Oh là 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 là. Non mais arrête-toi là, sérieux, mais qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là en truck?
J'ai rien compris.
Autant les règles en Xfinity, j'arrive à voir un aspect, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Je peux tester. Mais là, tu m'as perdu.
Sur les drapeaux jaunes, a priori, il y aura une pause de 3 minutes pour que les équipes puissent intervenir sur les trucks. Ce qui fait que ceux qui ne s'arrêtent pas s'arrêteront derrière le truck de sécurité. Sinon, en 3 minutes, le truck, il fait 3 tours.
Donc, il y aura une sorte de drapeau rouge, quoi.
Il y aura une sorte de drapeau rouge pendant un quickie.
Qui est totalement illogique.
Un drapeau rouge pendant un quickie, ouais, ça commence vraiment à partir en cacahuète là.
Ah bah si c'est rouge pendant un quickie, c'est pas bon signe en général.
C'est clair. On prend un autre chemin.
C'est ça, c'est ton destin.
Mais du coup, c'est bien que tu en parles, Geoffroy, de ces tests.
Des cookies, je pense
ou... des tests. Non, des tests de règles pour les restarts et les, surtout pour les drapeaux jaunes et les arrêts ravitaillement. Parce que dans mon analyse de la reprise de la NASCAR, j'ai trouvé très intéressant et prometteur surtout l'exploration de nouvelles idées de la NASCAR pour que la ligue évolue dans le futur et du coup qui va de pair. Mais en parallèle, si je n'abuse, c'est que la NASCAR a décidé de rectifier des erreurs de son passé. Entre guillemets, je cite, les drapeaux confédérés et l'acceptation d'un racisme plutôt redneck, on va dire, voilà. Mais du coup, ces évolutions dont tu parles, ça rentre quand même, moi, dans ce que j'en retire, c'est que la NASCAR va de l'avant. Elle évolue, elle ne reste pas bloquée dans la tradition puritaine et dans la tradition sportive depuis l'arrivée de Steve Phelps à la direction de la NASCAR.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est la petite touche de Steve Phelps?
Ah, pour moi, c'est carrément la touche de Steve Phelps. Et ce que j'aime plutôt avec lui, bien qu'on ne le connaisse pas vraiment, c'est qu'il offre un leadership qui me semble solide et surtout progressiste. Et je trouve que ça dépoussière la NASCAR et de ce qu'elle était avec la famille France.
Ah oui, ça c'est sûr que c'était bien conservateur pour le coup.
Ah oui, ça a pris un petit virage. Donc
voilà. C'est bien de faire des tests, j'ai envie de dire. On ne connaît pas les tests, s'ils fonctionnent ou pas, avant de les avoir testés. Là, peut-être que ce dont tu viens de parler, Geoffroy, ça va faire un flop total et que ce sera un one-shot. Et au final, ils exploreront d'autres pistes et où ils s'en serviront pour trouver d'autres idées.
Un quickie one shot. Ok.
De toute manière, vu où on en était dans les saisons, alors certes, elles ne seront pas expérimentales puisqu'elles vont compter, mais au moins, voilà, ils ont souhaité tenter des choses.
Dernière expérience tentée par la NASCAR, je suis désolé, je vous coupe un petit peu, on avance un petit peu parce que là, t'es qu'à la fin de la partie 2. La dernière expérience, c'est quand même les courses en semaine. Il n'y a pas si longtemps que ça, les courses en semaine, c'était réservé aux courses qualificatives des Daytona 500.
Il y avait Eldora en truck.
À la course de Bristol en truck, à la course de l'Eldora en truck, et la course du Kentucky en truck, qui était des jeudis, hein, bon, parce que ça faisait jeudi, vendredi, samedi, ou non, mercredi pour la truck à Bristol. Ce qui n'est pas non plus déconnant. Là, pour le coup, ils n'ont pas eu le choix. S'ils voulaient rattraper le retard et pas finir en 2021, il fallait mettre des courses en semaine. Ils l'ont fait, ça s'est bien passé, même si la NASCAR te dit qu'ils s'attendaient à ce que les audiences soient un petit peu plus élevées en semaine.
Bah, après, je pense que ça se tient, qu'ils espéraient que les audiences soient meilleures, parce que je pense qu'ils ont dû prendre en compte qu'ils étaient le seul sport à rouler, enfin tout du moins... à rouler en NASCAR puisqu'ils ont 4 roues. Mais les courses en milieu de semaine, je pense que c'est également une idée qu'il faudrait conserver pour le futur. Ceci dit, je l'amenderai un petit peu. J'en ferai un concept un peu différent et je l'amenderai avec l'actualité, tout ce qui est de plus proche. C'est par exemple, c'est à se calquer sur l'exemple de la NFL pour le Thursday Night Football. Donc c'est le match du jeudi soir qui commence en milieu de saison. Bref, ils ont, je crois, c'est
entre plein jeudi.
Ouais, du coup c'est joué le jeudi soir.
Comme le Monday Night Football qui est le lundi.
Exactement. Mais ce qui est intéressant avec le Thursday Night Football, c'est que chaque équipe qui y participe a un break de 10 jours avant ou après après ce match. Donc tu peux enchaîner, tu peux jouer le dimanche et enchaîner le jeudi. Ou alors, et après tu enchaînes avec un repos de 10 jours, donc tu joues pas le dimanche d'après, mais le suivant. Ou alors c'est l'inverse. Tu joues pas pendant 10 jours et tu enchaînes le jeudi avec le dimanche.
Oui, en même temps c'est normal puisque la semaine de foot, là en l'occurrence, va du jeudi au lundi. Donc si tu joues le jeudi, tu rejoues pas le dimanche, quoi. Enfin, ça paraît logique.
Oui, c'est le fait de créer des mini breaks. Et après Kansas, on a eu un mini break jusqu'à Loudon de 10 jours. Et je pense.
Est-ce que les mini breaks, c'est des quickies?
Ah, ça peut l'être. Techniquement, ça peut convenir. Mais plus sérieusement, Les saisons d'un NASCAR sont très longues, ça on le sait tous, et je pense qu'il n'y a pas assez de semaines off pour récupérer, ou tout du moins pour que les pilotes profitent d'autre chose, parce qu'ils ont également une vie familiale et une vie privée à côté du sport. Et du coup, je pense que ces petits breaks de 10 jours, donc quand tu fais une course en milieu de semaine, par exemple le dimanche, pour reprendre le programme de cette année, t'es à Darlington et le jeudi, t'es à Martinsville, puisque tu restes dans une géographie proche. Et ensuite, tu as 10 jours. Et c'est par exemple dans ces moments-là où tu peux te reposer et où tu peux bouger assez loin pour la course suivante. Par exemple, si tu enchaînes avec un trip sur la West Coast, ça peut être une idée intéressante pour développer ces courses en milieu de semaine et pour qu'elles soient viables sur le long terme, pas uniquement pour rattraper le temps perdu.
Donc en fait, toi, pour alléger un petit peu les calendriers des pilotes, plutôt que de diminuer le nombre de courses, ce qu'on entend des fois, de temps en temps, en tout cas depuis plusieurs saisons, il y a toujours des rumeurs parfois qui courent que les calendriers pourraient baisser, toi, ça serait plutôt de garder le même nombre de courses, mais de mettre 2 courses par semaine, de temps en temps.
Ouais, je pense que ça permettrait certes de condenser à certains moments, mais d'aérer à d'autres moments, qui peut être intéressant par exemple pour des fêtes importantes, par exemple pour Pâques, pour Labor Day, pour la fête nationale aux États-Unis.
Après, est-ce que ça serait peut-être pas plus compliqué pour les diffuseurs du coup de s'adapter justement et de mettre des programmes quand il n'y a pas de NASCAR Je pense à ce côté-là, ça me passe d'un coup.
Bon, je pense que la télévision peut toujours s'adapter s'il y a de la thune au bout du truc. Hein.
Ouais.
Et que la course soit le dimanche après-midi ou qu'elle soit le jeudi soir, au final, techniquement, ça change pas grand-chose, puisque c'est déjà fait à l'heure actuelle.
Alors du coup, messieurs, pour conclure, à moins que vous vouliez encore ajouter des choses.
Je voulais juste ajouter un truc vite fait, c'est sur les double headers.
Vas-y, mets un truc en quickie.
Je vais mettre un quickie, c'est que les double headers, c'est sympa, mais si ça tenait qu'à moi, pour moi, j'en ferais des formats beaucoup plus agressifs. Par exemple, 2 courses en un jour. J'en ai déjà parlé, mais quitte à tenter le truc du double header, autant y aller à fond et tenter le truc à fond. Donc plutôt que de mettre une course le samedi, une course le dimanche, tu mets 2 courses le même jour. Ou alors tu mets des restrictions de parc fermé sur les voitures. Ou tu trouves des idées pour vraiment aller au bout de cette idée de double header, de conserver sa voiture de la première course à la seconde. Je pense que ça pourrait être d'autant plus intéressant et ça pourrait faire parler bien plus que les double headers à l'heure actuelle qui sont en référence à nos conversations, un peu des railleries.
Eh bien, 600 miles à Dover le même jour.
Ouais, faudrait réduire les distances si tu fais un double header.
Mais du coup, tu réduis. Ah oui, on est d'accord, tu réduis les distances. Tu fais du 2 fois 250 max ou tu fais du 200-200. Tu fais du 150-250. Tu peux trouver des moyens d'alterner. Mais évidemment, réduire les distances, et on va pas se mentir, mais des courses plus courtes, c'est une tendance de longue date et ça n'a pas prêt à s'arrêter.
Par contre, un double header le même jour, tu n'aurais pas peur qu'on se fasse chier sur la première, justement pour conserver la voiture pour la deuxième?
Si tu n'as qu'une seule voiture, c'est un risque.
Est-ce que le risque, il est déjà pas à l'heure actuelle? Sur les premières courses de double header, est-ce qu'on se fait déjà pas chier?
Non, Darlington, la première, on s'était pas fait chier, si je me souviens bien.
Ouais, mais c'était la première course, c'était la course de reprise en même temps. Il y avait une excitation qui était inhérente à l'événement.
On a eu quoi d'autre? Après, on a eu les Coca 600, je me souviens plus. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire, messieurs, en conclusion, que 2020, c'est la saison dont la NASCAR n'avait absolument pas besoin. Parce que quand tu auras bien, il y a quand même tout qui est parti en vrille, il a fallu faire plein de choses. Mais elle en rêvait, parce que son bon vieux laboratoire là de course en semaine, de double header et compagnie, c'est des trucs que jamais elle aurait tenté.
C'est vrai.
C'est un électrochoc dont elle avait possiblement besoin, et couplé avec la direction de Steve Phelps, pour l'instant, ça fonctionne.
Et il lui fallait absolument pas ça, parce que ça aurait pu être catastrophique, et finalement...
Elle va peut-être en sortir plus forte.
Elle va peut-être en sortir plus forte, grandie, et revenir un petit peu... Alors, peut-être pas son lustre de la fin des années 90, mais en tout cas, on parle de la NASCAR, en bien ou en mal, mais on en parle, comme souvent, et on a vu de belles choses. Et moi, honnêtement, si les saisons à venir pouvaient être comme ça, sans essai, sans rien, c'est pas mal aussi.
Piquant. Comme tu le dis, elle en sort totalement grandie. Je suis complètement d'accord avec toi. Et encore plus quand je compare aux autres ligues sportives majeures aux États-Unis. la NASCAR, on n'en parle pas pour sa réponse au Covid-19 et à la pandémie qu'il y a en ce moment aux États-Unis. On en parle pour des problèmes d'ordre raciaux vis-à-vis de Bubba Wallace, par exemple. On en a beaucoup parlé grâce à ses réponses, enfin à cause des réponses qu'elle a données pour en bannissant le drapeau de l'ancien État confédéré. On en parle pour des problématiques de justice sociale. Et c'est quelque chose que l'on n'aurait jamais imaginé auparavant. Et alors que dans les autres ligues, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, NBA, MLB, entre autres, on en parle surtout pour leur réponse au Covid-19 et pas forcément toujours en bien. Et elles n'en sortent pas forcément grandies, au contraire de la NASCAR qui s'est renforcée et qui avait un déficit de crédibilité au cours de la dernière décennie. Honnêtement, à l'heure actuelle, je la trouve très crédible.
D'accord. Lilian, un dernier mot après cette conclusion d'Aloïs.
Bah écoute, résumé, je me posais beaucoup de questions quand la NASCAR a repris. Voilà, comment elle allait gérer tout ça. Et puis, bah, en fait, mis à part quelques petits couacs, et pas des quicks pour changer, où les pilotes oublient parfois de porter leur masque quand ils sortent des voitures, notamment pour les interviews pour le vainqueur. Bon voilà, tout ça, je trouve, est très bien géré. Et puis, bah, tous ces changements, on s'y est très bien habitué. Et tu le disais à Loïs, au final, on n'y fait même plus attention. Que ce soit plus d'essais, plus de qualifications, course en semaine. Enfin, voilà, on s'y est fait. Et puis, il n'y a pas tant de changements que ça, au final. Hein. C'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Ça reste quand même les meilleurs et les mêmes qui sont devant. Sauf Kyle Busch.
La seule chose qui m'inquiète, par contre, c'est au moment où il va falloir incorporer les fans dans les tribunes. Et je pense que ça sera le niveau boss, comme dans les jeux vidéo, ça sera le final level. Tu verras si la NASCAR a su répondre correctement à cette pandémie ou non, quand elle devra réincorporer les fans dans les tribunes.
Bah, on les voit déjà un petit peu, alors c'est pas la NASCAR, hein, dans les courses de dirt track, notamment les sprint cars. Puisque je regarde un petit peu les exploits de Kyle Larson, il y a déjà un petit peu de monde en tribune. Bon, alors, c'est des tribunes toutes petites. Hein. Ça n'a rien à voir avec les ovales qui accueillent la Cup. Mais bon, ça porte pas de masque. Hein.
Mais personne porte des masques. La distanciation sociale, c'est une option. Et on l'a très bien vu au Texas. Quand ils étaient dans le drapeau rouge en sortie de quatrième virage, tous les fans qui étaient présents dans les tribunes, donc ils étaient quand même à 3000, c'est ça, non?
J'ai vu, c'était 3 ou 5000, ouais. Enfin, c'était...
Et ben, ils se sont tous agglutinés les uns sur les autres en face des voitures qui étaient stoppées en début de front stretch. Et j'imagine à 10, 20 fois plus de fans dans les tribunes. Et c'est quelque chose qui m'inquiète parce que je pense que, pour rester gentil, les pilotes ne viennent pas du même environnement que les fans et vice-versa.
Écoute, je vais te faire une réponse un peu bâtarde. Mais rendez-vous fin août.
À l'Indy 500, oui.
À l'Indy 500.
J'ai tellement peur. J'ai tellement peur.
Avec, pour le coup, l'Indy 500, et l'IndyCar qui, enfin, là, on a des, certes, on aura beaucoup de fans. On aura à peu près, je sais plus, je crois que c'est 25% de la capacité d'accueil maximale de l'Indianapolis Motor Speedway. Et on aura des séances d'essais, et des journées de qualification, puisque, enfin, c'est Indianapolis. Mais en IndyCar, globalement, on a fait le choix inverse. On maintient les essais, on maintient les qualifs. Donc,
voilà. On apporte des fans, qui seront certainement, à 6 chiffres.
Ah oui, bah oui, oui.
Et moi, c'est surtout ça qui m'inquiète, puisque si tu crées un cluster derrière, et ben, tu prends un coup sur le crâne assez violent, que ce soit d'un point de vue sportif et surtout d'un point de vue médiatique.
Ah ben là, ça peut être très mauvais pour la série, c'est sûr.
Effectivement. Mais après, voilà, est-ce que ce seront que des fans de l'Indiana, est-ce que ce seront des fans de tous les États-Unis? On verra bien. Bien évidemment, on ne souhaite pas de mal. Mais c'est vrai que ça pose question, ça aussi.
À suivre.
Messieurs, ce que je vous propose, c'est de se donner rendez-vous, non pas dans 10 ans, mais dimanche, puisque dimanche, il y aura une course de NASCAR, et uniquement de NASCAR, de Cup, pardon, je voulais dire. Ce sera sur l'ovale de Loudon, dans le New Hampshire, sans fan, pour le coup. Pas d'Xfinity, pas de truck, pas d'IndyCar. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer ce qui se sera passé à Loudon. Les horaires sont sur le site, Lilian. J'ai mis ce que j'avais en ma possession, donc ce que la NASCAR m'a donné. Donc, je tiens par avance à m'excuser auprès de tous ceux qui penseront que le drapeau vert est à 20h18 alors que ce sera 20h19 ou 20h22. Ouais, Je n'y peux rien. Je le redis encore une fois, je suis tributaire de ce que la NASCAR veut bien nous donner comme information. Donc, rendez-vous dimanche. Merci à toutes et tous d'avoir écouté. Merci à Loïs pour ces très, très longues interventions. J'espère que tu as bu quand même pendant l'émission pour garder ta voix. Merci. Merci Lilian, le repas était sympa.
À refaire.
à refaire en fin d'année, quand on débrouille pas la saison.
Bah tiens, tu vois, il y a l'ambulance qui vient chercher Aloïs.
Ouais, c'est bon, ils m'ont entendu.
Ils ont entendu son appel au secours.
Attends, on a eu...
Je suis en hypoglycémie, ça va plus là.
Merci à toutes et tous et rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer Loudon. Bonne semaine, bye bye.
À la semaine prochaine et bon courage.
Bonne semaine à tous, ciao.